À Bamako et à Nouakchott. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus. Suite de notre rétrospective 2014 pour le Sahel, le gouvernement mauritanien va-t-il faire marche arrière concernant sa nouvelle législation de lutte contre l'esclavage ? L'opération Barkhane est-elle une nouvelle phase de lutte contre le terrorisme au Sahel ?
C'est une sorte d'opération un peu de communication et de maquillage. En fait, on s'aperçoit que les effectifs ont été réduits.
Analyse de Pascal Le Potrémain, spécialiste des crises et des conflits contemporains. 2014 aura été une année difficile pour le Nigeria, avec une montée en puissance du groupe Boko Haram qui a réussi l'enlèvement spectaculaire de plus de 250 lycéennes.
À partir de cette date, on a compris que le mouvement Boko Haram a donc changé de tactique en utilisant les civils comme des boucliers humains.
Nous entendrons la réaction du journaliste nigérian Peter Oni. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Bion à ce micro. En Côte d'Ivoire, un second proche de l'ex-premier ministre ivoirien Charles Konambani, candidat à l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2015, a été arrêté par la police économique. Arthur Aloko est accusé de blanchiment de capitaux pour un montant de 500 millions de francs CFA, environ 800 000 dollars. Un premier proche de M. Bani, Sylvain Oka, avait été convoqué vendredi et placé en détention pour un autre crime économique présumé. Toujours en Côte d'Ivoire, l'AFP rapporte une grève de fin de 151 prisonniers détenus pour des délits liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Ils réclament leur libération provisoire. Selon un cadre pénitentiaire, ils ont été hospitalisés et leur cas n'est pas grave. La même source fait état de plus de 300 grévistes de la faim à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan-Lamaka. En octobre 2013, Doudou Diène, un expert onusien, avait appelé à la libération provisoire de tous les détenus de la crise, souvent emprisonnés depuis des années sans que leur dossier n'avance. En République démocratique du Congo, la veuve de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise et l'un des pères du panafricanisme, est morte dans son sommeil à Kinshasa. Pauline Opango Lumumba était restée discrète et à l'écart de toute activité politique depuis la mort de son mari en 1961. Âgée de 72 ans, elle est citée dans l'histoire du héros congolais en tant que destinataire des dernières lettres de Lumumba.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et nouveau tour de force des pirates écumant les eaux maritimes et fluviales du Nigeria. Ils ont détourné une canonnière dans l'état pétrolier de Bayelsa. Les précisions, Michel Joseph.
Selon le colonel Mustapha Anka, porte-parole militaire, la canonnière était en patrouille sur la rivière Santa Barbara, dans une zone où sévissent les pirates lorsqu'elle est tombée dans une embuscade. Les assaillants ont pris contrôle du bâtiment qu'ils ont emmené vers une destination inconnue. Trois soldats sont portés disparus depuis cette embuscade et des efforts se sont poursuivis aujourd'hui pour les retrouver. Au mois d'octobre, les pirates opérant sur cette même rivière ont attaqué l'escorte militaire d'une barge transportant du pétrole brut. Ils ont tué trois soldats et détourné une canonnière. Les pirates du Nigeria siphonnent du pétrole brut pour le revendre, de même qu'ils prennent des otages afin de les libérer contre rançon. La recrudescence de la piraterie dans le golfe de Guinée a atteint un niveau alarmant cette année. Les chefs d'État de la région, réunis à Yaoundé en juin 2013, avaient annoncé la création d'un centre de coordination interrégional contre la piraterie et des centres régionaux. Cependant, faute de moyens, l'initiative a du mal à fonctionner.
Et des généraux américains et afghans ont visité le Pakistan pour discuter de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Selon une déclaration de la force internationale en Afghanistan, la rencontre tenue ce mardi à Islamabad portait sur la coordination militaire des deux côtés de la frontière. Elle intervient après le massacre de la semaine dernière à Peshawar, au Pakistan, où près de 150 élèves et enseignants ont été tués par les talibans. En Ukraine, le Parlement a voté à une majorité écrasante, 303 contre 8 en faveur de l'abandon du statut des pays non alignés, un pas de plus donc vers une demande d'adhésion à l'OTAN. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Pavlo Klimkin, soutient que ce vote ouvre la voie à de nouveaux mécanismes permettant d'atteindre les objectifs d'intérêt national. Son homologue russe Sergei Lavrov, au contraire, qualifie la mesure de contre-productive, disant qu'elle ne fait qu'attiser la confrontation au lieu de résoudre la profonde crise interne de l'Ukraine. Et puis, nouveau bilan de l'Ebola. Le nombre de décès a maintenant dépassé 7500 sur près de 20 000 cas confirmés. Les derniers chiffres publiés lundi par l'Organisation mondiale de la santé reflètent une baisse du taux de transmission du virus au Libéria et en Guinée, alors qu'il a augmenté en Sierra Leone. Ces trois pays sont les plus touchés et on y retrouve la quasi-totalité des cas de décès. Le bilan dans les autres pays reste inchangé, soit 6 morts au Mali, 8 au Nigeria et aux États-Unis. L'Espagne et le Sénégal ont eu un cas d'Ebola chacun, mais aucun mort. Vous écoutez VOA Afrique, place maintenant à la suite de Sahel+. Claire Morin-Gibou.
Retour à la partie magazine de Sahel+, sur VOA Afrique, pour notre rétrospective 2014. En Mauritanie, le mouvement abolitionniste aura gagné la bataille de la communication avec la remise du prix des droits de l'homme des Nations Unies au président du principal mouvement de lutte anti-esclavagiste, l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Des signes prometteurs pour la lutte contre l'esclavage si plusieurs militants, dont le président de l'IRA, Biram Oulda Ouldabeid, n'avait pas été arrêté en novembre dernier. Nous avons joint notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia, à qui nous avons demandé si l'on pouvait interpréter ces arrestations comme un retour en arrière du gouvernement.
Bien sûr, ça peut être interprété comme un retour en arrière. Il faut d'abord rappeler qu'ils ont été inculpés pour, entre autres, troubles à l'ordre public et participation à une organisation non reconnue. C'est par rapport au discours de Biram qui est encore très mal reçu par une partie de l'opinion publique mauritanienne. Et il y a des pressions souvent qui sont exercées sur l'État pour qu'il agisse par rapport à ce discours de Biram qui est jugé un peu stigmatisant d'une certaine communauté et qui est jugé violent. Mais ce qui est sûr, c'est que l'activisme de Biram, l'activisme de l'IRA et les organisations de défense des droits de l'homme ont installé le débat sur l'esclavage au cœur de l'actualité mauritanienne. Et plusieurs ONG, partis politiques, des associations, à chaque fois qu'un activiste des droits de l'homme est emprisonné, n'arrête pas de demander sa libération. Il y a une chose extrêmement importante, surtout pour cette année 2014. Alors, en avril 2014, il y a eu une marche pour les droits civiques, politiques et économiques des Haratins. Les Haratins, ce sont les descendants d'esclaves. Alors, cette marche a regroupé non seulement des activistes des droits de l'homme, mais aussi des représentants des partis politiques. Il y avait même, au cours de cette marche, des membres du parti au pouvoir qui soutient Mohamed Oul Abdelaziz. Alors, l'idée, c'est que les Haratins, ils se disent, il n'y a pas de statistiques, mais qui sont majoritaires parmi les composantes de la Mauritanie et qu'ils sont les plus sous-représentés dans les instances étatiques. Et au cours de cette marche, ils ont, par exemple, entre autres, revendiqué un quota de 40% sur les postes constitutionnels, les postes dans l'administration et dans la diplomatie mauritanienne, entre autres.
Notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia. Gros plan sur l'opération Barkhane lancée le 1er août 2014 par l'armée française au Sahel. Opération destinée à mieux lutter contre le terrorisme. Le dispositif qui succède à l'opération Serval au Mali s'étend désormais au travers de 5 pays du Sahel, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Mali et le Burkina Faso. Un dispositif qui s'appuie sur les renseignements que fournissent 4 drones basés à Niamey, dont 2 MQ-9 Reaper ou MQ-9 Reaper, capables de voler 24 heures sans discontinuer. Nous avons demandé à l'historien Pascal Le Potréma si l'opération Barkhane était une nouvelle phase dans la lutte contre le terrorisme radical dans le Sahel.
Disons que c'est une nouvelle phase, oui et non, c'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment quand même que c'est une sorte d'opération, un peu de communication et de maquillage. En fait, on s'aperçoit que les effectifs des forces déployées au sol, les moyens aériens, n'ont pas ont été amplifiés en conséquence. Au contraire, ça a été un petit peu réduit, ce qui montre aussi la difficulté pour la France de financer ce type d'opération. Alors, ça c'est un premier point. L'autre point, c'est que malgré les résultats enregistrés, c'est-à-dire qu'officiellement, finalement, depuis le début de l'opération Serval, la France a dit que près de 200 tonnes d'armes avaient été saisies, que pratiquement Plusieurs centaines de djihadistes avaient été mis hors de combat, mais très peu finalement de chefs djihadistes, qui avaient eu près de 7500 sorties d'aéronefs, c'est-à-dire d'avions ou d'hélicoptères. Bon, eh bien, en dehors de cela, tout de même, on s'aperçoit qu'il y a toujours des zones véritablement dangereuses où il faut poursuivre les combats, notamment dans l'Adrar des Sifouras, à l'extrême nord du Mali. Et puis, encore et toujours, continuer à lutter contre des réseaux tels que ACMI, qui, on pense, dispose encore d'à peu près 7000 combattants. Vous avez également le mouvement Al-Mourabitoun, les Almoravides, qui a été créé en août 2013 et puis qui est la fusion d'un des réseaux connus comme étant celui de Mokhtar Belmokhtar. Alors eux sont moins nombreux parce qu'ils ont perdu quand même les deux tiers de leurs effectifs, mais ce sont encore des djihadistes qui sont plusieurs centaines à être opérationnels. Donc c'est très compliqué hein, de se dire que à court terme le problème va être réglé. Et là on est encore, à mon avis, pour quelques années sur place. Et puis surtout, il faut saluer la précieuse coopération et collaboration avec les services américains qui nous apportent une aide majeure, tant en matière de renseignement, de guerre électronique, que d'emploi de drones armés. Donc là encore, on le voit très bien, la dimension multinationale est précieuse dans ce type d'opération.
Est-ce que ce n'est pas démesuré comme opération pour finalement combattre un terrorisme qui manifestement échappe à toute manœuvre militaire ?
Oui, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, il y a deux dimensions d'intervention, c'est-à-dire celle dont on vient de parler, qui porte plus sur les forces armées un peu plus conventionnelles, même s'il y a des forces spéciales, mais c'est pour intervenir contre des groupes, des katibas, des compagnies de djihadistes. Mais vous avez l'autre aspect que vous soulevez, c'est-à-dire la question du terrorisme larvé au cœur des villes, des communes, avec des terroristes que l'on dit dans le jargon désilhouettés, c'est-à-dire qu'en fait ils vont abandonner leur tenue de combattant, couper leur barbe et même leurs cheveux, et puis se fondre dans la population et attendre finalement que les forces armées passent et puis frapper sur les arrières, terroriser, créer le doute, l'insécurité dans les zones civiles. Ce qui veut dire que effectivement ça demande un travail conséquent pour déployer des forces de police sur place. Il faut donc aussi que les autorités maliennes fassent le nécessaire, en collaboration d'ailleurs aussi avec la MINUSMA, qui compte 8500 hommes à peu près, en cette fin 2014. Bon, et on s'aperçoit que ce terrorisme dans les communes, dans les zones urbaines, va nécessiter un travail considérable de terrain, en lien avec les autorités locales, en lien avec la population.
Pascal Le Potréma, historien et spécialiste des crises et des conflits contemporains. Nous sommes au Nigeria pour la dernière partie de l'émission pour un retour sur l'année 2014 pour le groupe terroriste Boko Haram. Une année terrible pour la population du nord-est du Nigeria qui a vécu une recrudescence d'attaques sanglantes et d'attentats suicides. La secte islamiste allant jusqu'à enlever plus de 250 lycéennes à Chibok en promettant de les marier ou de les vendre comme esclaves. Une année marquée également par l'annonce d'un cessez-le-feu entre le gouvernement et Boko Haram mi-octobre, un cessez-le-feu qui s'avérera complètement faux. Retour sur cette terrible année pour la première économie africaine avec Peter Oni, journaliste basé à Lagos.
Il faut reconnaître qu'il y a eu au cours de cette année 2014 une recrudescence des attaques terroristes contre certains édifices publics, également contre la population civile, les militaires, une manière de confirmer et de consolider la présence de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Il faut aussi reconnaître que cette recrudescence a marqué un tournant de la lutte contre le terrorisme également, parce que le gouvernement a pris conscience de l'ampleur du problème en s'attaquant à bras le corps à cette menace qui vient non seulement du nord-est du Nigeria, mais qui prend une dimension régionale.
L'année 2014 a aussi été l'année de la médiatisation internationale, notamment avec l'enlèvement de plus de 200 lycéennes à Chibok.
À partir de cette date, l'enlèvement des lycéennes, on a compris que le mouvement terroriste Boko Haram a donc changé de tactique en utilisant les civils comme des boucliers humains, parce que cette secte a compris que le gouvernement s'était lancé dans une guerre totale contre ses positions, contre ses fiefs. Il fallait donc utiliser des boucliers humains pour freiner l'avancée de l'armée nigériane. À ce jour, les lycéennes sont toujours incarcérées. Les lycéennes, au dire de Ibrahim Chekau lui-même, sont mariées de force à certaines personnalités, peut-être même nigériennes, voire africaines, car il faut noter que le problème Boko Haram n'est pas seulement nigérien. Il est déjà de la sous-région, notamment dans la région du lac Tchad. Ces lycéennes sont où? Au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, au Niger, un peu éparpillées dans la région du lac Tchad. Dieu seul sait à ce jour. Il faut, à mon avis, prendre conscience du phénomène et comprendre que la donne a changé, tant du côté de Boko Haram que de l'armée nigériane, que du gouvernement nigérien.
Et comment peut-on décoder ce cessez-le-feu qui est intervenu à la fin de l'année et qui s'est révélé un cessez-le-feu totalement faux?
Il faut reconnaître qu'on a peu d'informations sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Maintenant, le processus de cessez-le-feu qui a été enclenché et qui, en fin de compte, s'est avéré faux, je pense que c'était un processus qui, à un moment donné de l'évolution de la lutte contre le terrorisme et notamment des activités de Boko Haram, était engagé pour soit détourner l'attention de la population nigériane, de la communauté internationale, sur certains faits qui ont eu lieu et qui ont lieu même à l'époque sur le terrain. Tout le monde était ravi, tout le monde avait de l'espoir sur ce processus de cessez-le-feu. Mais en fin de compte, ça a été une déception totale. La déception n'est pas seulement du côté de la population, elle est d'autant plus sérieuse et plus amère encore pour les parents des jeunes filles de Chibok. Il faut noter que ces parents, jusqu'à ce jour, n'ont aucune nouvelle de leur fille, qu'est devenue la jeune fille qui a quitté sa maison pour l'école et qui aujourd'hui n'est plus retrouvée. Dieu seul sait. Mais tout ce que, à mon avis, je pense qu'il faut comprendre dans ce phénomène, c'est un phénomène purement politique qui n'a son sens que dans la politique.
Le journaliste nigérian Peter Oni. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Issia Kaba. À la technique, Zouber Al-Tayeb. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec la franco-nigériane Assa et son morceau Jailer. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VO1 Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Strategies, you oppress, follow every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave. Mr. Jailer, I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him eat without sin. Be the first to cast the stone. Mr. Jailer, Mr. Jailer, man. Thank you.
You see, if you walk in the marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might hit one of your own. Life is not about your policies.